Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 7 concernant le salut. Le titre pour aujourd'hui sera « Comment recevoir la vie éternelle ?» Il est dit dans la première épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. » Vous avez besoin de savoir que vous êtes sauvé. Vous avez besoin de le savoir et non pas d'en douter, pas de le supposer et non plus de simplement l'espérer. Vous n'avez pas besoin de vivre dans le doute, la crainte ou l'incertitude et n'ayant jamais l'assurance du grand salut de Dieu. Vous pouvez savoir que vous avez la vie éternelle, pas une religion, mais vraiment la vie éternelle. Dieu est venu sur cette terre dans la personne de Jésus-Christ pour que vous ayez la vie. Jésus-Christ a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait même avec abondance. » C'est confirmé par Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Donc Jésus est venu pour donner à l'homme une nouvelle espèce de vie, une vie qui est éternelle, une vie qui est infusée de la nature de Dieu. Il s'agit de la même vie que possédaient Adam et Ève avant qu'ils pêchent. Nous avons reçu cette vie en retour par le dernier Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Le mot grec pour salut est « zotso ». Traduit, il comprend la guérison de l'homme tout entier, la joie, la prospérité, la délivrance et la paix. Il comprend le fait d'être délivré de tout mal et d'être entièrement guéri par la foi en Jésus-Christ. Les mêmes principes qui entrent en jeu pour le salut peuvent être appliqués pour la guérison, les miracles, la prospérité, la vie de famille et tous les domaines où vous avez un besoin. Si quelqu'un n'a pas l'assurance d'être sauvé, ou si il ou elle a un sentiment d'infériorité, il ne sera pas capable d'exercer son autorité sur le diable. Si vous avez du doute concernant votre salut ou votre relation avec Dieu, eh bien, vous n'agirez jamais avec hardiesse face à l'ennemi. Si vous avez des sentiments de doute ou d'infériorité, le diable gagnera à chaque fois. L'infériorité est le contraire de l'autorité. Si vous vivez avec des sentiments d'infériorité, vous n'agirez jamais avec hardiesse et vous ne parlerez jamais avec autorité. Nous vivons à une époque où des forces démoniaques ont été lâchées contre la race humaine en immense quantité pour tourmenter les chrétiens. Ces forces tentent de donner aux chrétiens des raisons de douter qu'ils appartiennent à Dieu. Et beaucoup parmi le peuple de Dieu n'ont pas reçu, pas du tout, l'enseignement juste concernant leur salut. Certains ont été nourris dans des groupes qui continuellement produisent l'insécurité. Il y en a qui enseignent que si vous ne donnez pas votre dîme, vous mourrez et irez en enfer. Évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner la dîme. C'est biblique. Mais quant à dire que si quelqu'un ne donne pas sa dîme, qu'il va en enfer, c'est un peu fort. Car je connais des personnes qui, pour des raisons de santé, des raisons d'éloignement, ne peuvent pas aller régulièrement dans une église ou une assemblée chrétienne. Mais ils envoient de l'argent à des missions pour aider, par exemple, un pasteur qui est mal payé, etc. Donc, vous seriez étonné qu'il y a des chrétiens qui ne peuvent pas toujours, je dis bien, pour des raisons diverses, donner régulièrement leur dîme. Sans compter qu'aujourd'hui, nous avons tellement de gens au chômage, aussi bien les aînés que les jeunes. Et vous pouvez bien comprendre que ce n'est pas facile. Il y en a même qui enseignent toutes ces choses-là avec l'intention de faire peur. Vous ne pouvez pas acheter votre entrée dans le royaume de Dieu, ça c'est clair et net. On ne peut pas l'acheter ni par les dîmes, ni par des dons. Et la Bible, elle dit, car c'est par la grâce, je répète, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il y en a qui prêchent que leurs doctrines sont les seules auxquelles il faut adhérer et leur église les seules auxquelles il faut appartenir pour être sauvé. À Dieu ne plaise. Voyez-vous, tout croyant né de nouveau est un membre du corps de Christ appelé l'Église dans le Nouveau Testament. La plupart des serviteurs de Dieu sont sincères. Ils marchent dans la lumière qu'ils ont et nous n'avons pas le droit de les condamner. La Bible dit dans la première épître de Saint Jean, au chapitre 5, verset 13, que Dieu veut que vous sachiez que vous avez la vie éternel. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Vous n'avez pas besoin de vivre dans le demi-jour de l'incertitude. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans cette pénombre, ne sachant pas que vous êtes sauvé ou non. Vous n'avez pas à vivre dans le doute. Vous pouvez être certain de votre salut aujourd'hui même. Jésus-Christ a déjà réconcilié le monde avec Dieu. C'était Dieu présent personnellement en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et lui restaurant. Oui, voyez-vous, sa faveur, elle n'impute pas et ne retient pas contre les hommes, mais non. Donc, il ne retient pas nos offenses, mais il est prêt de les annuler. Il l'a fait pour moi et j'en suis éternellement reconnaissant. Et il nous confie le message de la réconciliation, de la restauration à la faveur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. C'est la traduction « The Amplified Bible ». Donc, Jésus-Christ est vraiment le pardon. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre connaissance de ce pardon et de l'accepter. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous avons été pardonnés et nous avons la possibilité de l'accepter ou de le rejeter. Jésus-Christ est mort, lui, le juste, pour les injustes. Et ceci afin de nous amener à Dieu, selon la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Car le Fils de l'homme, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Saint Luc, chapitre 19, verset 10. Dieu a effacé nos péchés et nos iniquités. Alléluia. Il ne s'en souvient plus. Ésaïe, chapitre 43, verset 25. Mais il était blessé, et comment ? Pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Certains ont demandé s'il n'y a pas de péché imputé contre moi, pourquoi irais-je en enfer ? Voyons, on va en enfer pour avoir rejeté Jésus-Christ comme son sauveur. Jésus-Christ a dit : si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Saint Jean chapitre 3, verset 3. Vous devez donc naître de nouveau pour être sauvé de l'enfer et passer l'éternité au ciel. Un jour, quand Jésus-Christ parlait avec les disciples, il leur dit : il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, alors là, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Saint Jean, chapitre 16, versets 7 à 9. Alors, que faut-il que l'homme fasse pour être sauvé ? Eh bien, vous devez consentir à confesser Jésus-Christ comme votre Seigneur. C'est cela, la bonne nouvelle pour le monde d'aujourd'hui. La Bible dit : si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains chapitre 10, verset 9, ainsi que le verset 13. Alors, la réponse au problème de chacun, elle se trouve en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas sauvé simplement parce que Dieu vous a pardonné. Vous devez naître de nouveau et devenir une nouvelle créature en Christ Jésus. Vous devez quitter une famille qui est celle du diable, et vous devez naître dans la famille de Dieu, selon Éphésiens, chapitre 2, verset 2. Et vous pouvez noter Colossiens, chapitre 1, verset 13, qui nous dit « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour ?» La bonne nouvelle n'est pas que le pécheur aille en enfer. Bien sûr, il est vrai que sans Dieu, eh bien, il va, hélas, en enfer. Mais la plupart du temps, le pécheur est déjà conscient de tout cela. La bonne nouvelle est que Dieu a déjà réconcilié tout homme avec lui. Jésus-Christ t'a déjà pardonné. Il vous a déjà acquitté. Il vous a déjà restauré sa faveur. Il attend que vous acceptiez ce grand amour. Quand vous acceptez Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Vous entrez dans la famille de Dieu, et cela par la nouvelle naissance. Vous êtes donc une nouvelle créature. Ainsi, si quelqu'un est greffé en Christ, le Messie, il est une toute nouvelle créature. Oui, une nouvelle création, car les choses anciennes, la condition morale et spirituelle antérieure, elles sont passées, oubliées, terminées. Voici donc les choses nouvelles et fraîches, elles sont venues. Mais tout cela vient de Dieu, oui. Voyez-vous, qui, par Jésus-Christ, nous a réconciliés, oui, l'a fait, avec lui-même. Il nous a reçus avec faveur. Il nous a amenés à l'harmonie avec lui-même et il nous a donné le ministère de la réconciliation afin qu'en parole et en action, nous nous efforcions d'amener les autres à l'harmonie avec lui. Je répète, afin que nous nous efforcions d'amener d'autres, les autres, à l'harmonie avec lui, sauvés pour servir. C'était Dieu présent personnellement en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Au moment même où vous confessez Jésus-Christ comme votre Seigneur, sincèrement, et cela du fond de votre cœur, eh bien, Dieu accomplit le miracle de la nouvelle naissance dans votre vie. Il vous restaure sa faveur, son pardon est total en Jésus-Christ. Si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, et si vous croyez en lui pour votre salut, et si ensuite vous permettez au diable de vous mentir et de vous faire dire « Oh, je ne suis pas vraiment sauvé », mais non. Eh bien, chers amis, vous qualifiez Dieu tout simplement de menteur. Et c'est pas très gentil cela. Dieu a rendu témoignage à son Fils. Son témoignage est « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même et celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » 1er épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 10. Cela vaudrait la peine que vous relisez ce passage. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Premier épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 10. Permettez-moi, chers amis, de dire ceci en ce qui concerne le péché impardonnable. Oui, ça c'est aussi une question délicate. Il ne s'agit pas de quelque péché dans votre vie au sujet duquel vous vous sentez peut-être coupable. On commet le péché impardonnable surtout dans une pleine compréhension et avec la lumière sur la parole de Dieu, sur le fait d'être sauvé et baptisé dans le Saint-Esprit après avoir goûté au surnaturel dans sa vie. Alors, le péché impardonnable, c'est savoir sans l'ombre d'un doute que Dieu existe, avez-vous entendu, que le Saint-Esprit est une réalité et que la Bible est vraiment vraie et non pas un mythe. Et avec une pleine lumière et une pleine compréhension de ces choses et de décider ensuite de rejeter Dieu et Jésus-Christ en sachant de façon absolue que quoique tout cela soit réel, on choisisse de le rejeter. Ça, c'est grave. Le péché impardonnable est impardonnable seulement parce que celui qui rejette Dieu, il ne veut pas du pardon de Dieu. Dieu ne violera jamais la volonté libre que a l'homme de le choisir ou de le rejeter, de le renier. Si vous commettez ce péché-là, vous n'aurez malheureusement pas de soucis ou de craintes au sujet de votre salut. Si vous êtes inquiet, bien au contraire, c'est un signe certain que vous n'avez jamais commis ce péché. C'est simplement le diable qui essaye de vous tourmenter, c'est son but et c'est ce qui lui plaît de nous effrayer. Ordonnez-lui donc de partir dans le saint nom de Jésus-Christ, selon Jacques, chapitre 4, verset 7. La première épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 13, nous assure « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc, quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, il entre dans votre cœur et vous êtes sauvé. Il entre donc dans notre cœur et dans notre esprit. Ça, c'est une réalité. Et Dieu va vous sauver. Votre salut ne dépend donc pas de ce que vous ressentez sur le moment. Il ne dépend non plus de quelques émotions. Dieu vous sauve parce que honnêtement et sincèrement, vous ouvrez votre cœur et votre esprit et vous l'acceptez. C'est une décision de qualité, cela. C'est une décision du cœur, de votre âme, de votre esprit, de tout votre être. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son saint nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Saint Jean, chapitre 1, verset 12. Dans chaque personne qui est perdue, il y a une puissance démoniaque à l'œuvre. Ça, je l'ai expérimenté moi-même autrefois. Et c'est pour cela que les gens disent « Je ne sais pas pourquoi je fais ce que je fais. Je ne veux vraiment pas faire de mauvaises choses, mais je les fais quand même. » La plupart des gens sont sans nul doute inconscients de cette activité démoniaque qui les conduit à la destruction. Le diable commissionne, il commissionne les démons pour qu'ils s'assurent que les gens soient conduits loin de Dieu. John Lake raconte l'histoire suivante qui illustre le pouvoir que possède Dieu, de pouvoir changer un homme ou une femme. Alors, voici donc l'histoire. Un homme se présenta à moi un jour et il dit « J'ai presque honte de m'appeler un homme parce que je me suis tellement laissé aller à l'animalité que je suis plus une bête qu'un homme. » Vous dites « Pourquoi ne renoncez-vous pas à une telle vie ?»« Oh bien, voyez-vous, je n'ai pas la volonté de le faire, à moins que quelque chose se produise ou puisse se produire qui me délivre de cet état. Je ne sais pas ce que je vais faire. » J'essayais alors, raconte John Lake, j'essayais de lui montrer ce que était l'évangile de Jésus-Christ. J'essayais de lui montrer qu'en vivant à l'état animal, s'entourant de suggestivités bestiales et en entrant ainsi en contact avec l'esprit de bestialité à tout niveau, que cet élément avait pris possession de lui, de sorte qu'il dominait carrément sa nature. Alors je lui ai dit, « Mon fils, si l'évangile signifie quelque chose pour vous, c'est bien un changement de nature que vous avez besoin. Au lieu de cet enfer vivant en vous, c'est le Dieu saint et vivant qui devrait entrer à flot dans votre vie, en chasser le diable et déposséder la bête et ainsi régner dans vos membres. » Et là, ils se sont tous les deux agenouillés pour prier et quelques jours plus tard, il est revenu pour voir John Lake, les larmes aux yeux, et lui dit « Mr. Lake, je sens que je peux vous serrer la main maintenant. Je ne suis plus une bête, je suis maintenant un homme. » Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3 nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, et dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Avant que l'homme naisse de nouveau, son esprit est mort. Le diable et son père, vous savez, on peut dire carrément que le diable est devenu son père. Et lisez simplement Saint Jean, chapitre 8, verset 44. Son intelligence est obscurcie, étant étranger à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en lui, à cause de l'endurcissement de son cœur. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Romains 5, verset 12 nous dit, C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et vous avez compris, ça veut aussi dire sur toutes les femmes, parce que tous ont péché, moi le premier. Donc tout être humain hérite de cette mort spirituelle dont Adam a fait l'expérience. Un enfant livré à lui-même ne servira pas Dieu de sa propre volonté. Il est donc naturel pour l'homme non régénéré, non sauvé, de servir le diable, même si il n'y croit pas. Tout homme qui n'est pas né de nouveau a pour père le diable, qu'il le croit ou qu'il ne le croit pas. La mort spirituelle comprend la maladie, les infirmités, les tourments et la tristesse. Le plan de rédemption de Dieu consistait à faire venir dans ce monde un être humain qui est exempt de mort spirituelle dans son esprit et dans son corps. Tous les êtres humains venus au monde après Adam avaient cette mort spirituelle dans leur esprit. Et pour racheter l'humanité, Dieu devait donc faire venir dans ce monde quelqu'un, quelqu'un à la fois divin et humain. Alors quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Saint Jean, chapitre 1, verset 29. Quand Jésus-Christ a été baptisé, le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Saint Matthieu, chapitre 3, verset 17. La vie de victoire qu'a vécu Jésus sur le péché, sur la mort, sur la maladie et les infirmités, c'est l'image de la façon dont toute nouvelle créature devrait vivre. Nous devons donc régner comme des rois dans la vie, selon Romains chapitre 5, verset 17. Jésus-Christ était Dieu fait chair. Avez-vous compris? Jésus-Christ était Dieu devenu chair. Il n'y avait pas de mort spirituelle en lui. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Saint Jean, chapitre 1, verset 4. Jésus-Christ, lui qui n'avait pas de péché, allait devenir péché. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Lui qui n'avait pas de maladie allait devenir maladie et infirmité. Lui qui n'avait pas de malédiction allait devenir malédiction pour nous. Galates chapitre 3, verset 13. Mais Dieu, il a fait plus que cela encore pour l'homme. Oh oui, il frappa au cœur même du problème et s'abaissa pour toucher et relever l'humanité. Jésus-Christ est mort spirituellement à notre place. Mort signifie la séparation. Il fut en fait séparé de Dieu à notre place. C'est la raison pour laquelle il a crié sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Saint Matthieu, chapitre 27, verset 46. Il n'a pas crié « Père, Père ». Non, il a appelé Dieu. Il avait pris notre place spirituellement et physiquement. Il avait accepté et il avait reçu dans son esprit notre mort, notre séparation d'avec Dieu. Il allait donc descendre en enfer même. Dieu ne pouvait abaisser les regards sur lui, car il était devenu péché. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus-Christ, nous le voyons couronné maintenant de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous tous. Hébreux, chapitre 2, verset 9. Chers amis, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, pardon, vous n'êtes pas seulement pardonné, mais vous recevez en retour ce que Adam avait perdu. Votre esprit est rendu vivant par la vie éternelle. Votre lampe, elle est allumée, Proverbe 20, verset 27, et elle reste maintenant allumée. C'est cela, le puissant miracle qui se passe dans votre esprit quand vous êtes sauvé, quand Dieu verse en vous sa vie divine, et là vous recevez la vie éternelle dans votre esprit. Ce n'est pas une religion que vous recevez maintenant, mais c'est la vie éternelle. Il n'y a pas de mort spirituelle en vous, mais il y a Christ. La mort spirituelle est entièrement effacée quand la vie éternelle active votre esprit. La guérison, elle commence dans votre esprit et se propage dans votre corps. Cette vie chasse la maladie de votre corps. Jésus-Christ a vaincu la mort, l'enfer et le tombeau. Nous l'aimons pour tout ce qu'il a fait. Quand nous sommes vraiment nés de nouveau, nous voulons vivre pour Dieu. Il ne peut y avoir de crainte dans notre cœur, dans votre cœur, quand vous ou quand nous savons que Dieu nous aime vraiment. Ne permettez donc pas au diable de vous insuffler de la crainte au sujet de votre salut. Notre Père Céleste, il a été jusqu'au bout pour nous ramener à lui. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, pour toi comme pour moi. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains, chapitre 8, verset 32. Dieu vous aime, alléluia. Il vous aime tel un père aime tendrement son enfant. Il ne voit rien de mal en vous. L'amour ne voit que le bien. L'amour couvre une multitude de péchés, selon la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 8. Dieu voit Jésus-Christ en vous. Il comprend tout ce que vous ou tout ce qui vous concerne. En effet, il sait que vous faites de votre mieux pour le servir. J'ai entendu un jour des gens dire « Mais j'ai fait tant d'erreurs, comment pourrais-je être toujours sauvé ?» Eh bien, notez la première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9, qui dit « si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. À l'instant même où vous confessez vos fautes à Dieu, vous communiez votre communion avec lui, elle est donc maintenant restaurée. C'est important de savoir cela. Vous êtes donc purifié de toute iniquité. Le péché dans votre vie entrave et affecte votre communion avec Dieu, mais cela ne veut pas dire que votre relation avec Dieu soit rompue. N'écoutez pas l'ennemi. Si vous péchez, Dieu ne vous renvoie pas pour autant de sa famille. Il ne vous rejette pas. Il vous relève et il vous aide à aller de l'avant. En tant que nouveau chrétien, vous faites peut-être des erreurs en apprenant à vivre selon la parole de Dieu, mais vous avez Jésus-Christ. Quand le diable vous attaque, ne vous fiez pas à vos sentiments. Reportez-vous à la sainte parole de Dieu. Lisez ce que Dieu a dit à votre sujet. Celui qui a le Fils a la vie. Premier épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 12. Chers amis, croyez donc en Dieu. Vos sentiments peuvent varier selon les circonstances, mais la parole de Dieu, elle est éternelle, elle n'a pas de fin. Jésus-Christ a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Saint Matthieu, chapitre 24, verset 35. Même si vous ne vous conduisez pas toujours parfaitement, moi y compris, Dieu vous considère toujours comme son enfant. Dieu ne vous tient pas pour un raté, mais il vous considère comme un élève. Le diable essayera de vous condamner, mais vous n'êtes pas condamné. Romains chapitre 8, verset 1. Vous êtes l'enfant même de Dieu, vous avez la vie éternelle. Saint Jean chapitre 3, verset 14 à 19 nous dit « Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils bien-aimé dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il désire nous tendre sa main, c'est à nous de la saisir. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce que il n'a pas cru au saint nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes, malheureusement, ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Saint Jean, chapitre 5, verset 24, nous dit « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a quoi ? Il a la vie éternelle et elle ne vient point en jugement, mais il ou elle est passé de la mort à la vie. Vous avez donc la vie éternelle maintenant, maintenant même. » Et vous avez donc la vie même de Dieu en vous aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vivre comme vous viviez sans Jésus-Christ. Si vous essayez, eh bien vous serez malheureux. Dieu merci, on est triste quand on pêche. Je me souviens de ce jour magnifique où j'ai été sauvé. Le prédicateur m'a demandé « Veux-tu accepter Jésus-Christ ?» Il n'a pas dit « Cesseras-tu éventuellement de pécher, de commettre des péchés ?» Non, il ne m'a pas demandé si je vivrais une vie parfaite maintenant. Non, 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 il a dit « Veux-tu accepter Jésus-Christ ?» Et j'ai dit « Tout à fait ». Et j'étais sincère dans mon cœur. Ce jour-là, je confessais Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et j'ai compris qu'il fallait maintenant grandir en lui et le suivre, évidemment. Au moment même où je crus dans mon cœur et le confessais de ma bouche, eh bien, je passais des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Pas une fois depuis lors ai-je douté de mon salut, même si parfois j'ai glissé sur une pelure de banane. Car le diable, il essaye de nous faire douter à plusieurs reprises, mais il va échouer à chaque fois si nous tenons ferme. Et si nous sommes sérieux dans notre décision, la parole de Dieu, elle est vraie et elle est la base absolue de notre salut. Je suis sauvé, pourquoi ? Mais parce que Dieu dit que je le suis. La parole de Dieu, elle est vraie. Le diable essaye de mentir, de nous mentir, et de nous dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. Mais c'est un menteur, c'est le roi des menteurs. Donc, n'écoutons pas l'ennemi. Dites « Je suis sauvé et j'ai la vie éternelle en moi ». Vous êtes enfant de Dieu, vous avez ce qu'il dit que vous avez, alors ne permettez surtout pas à personne de vous imposer leurs convictions ou de vous condamner par leurs prédications et de vous entraîner dans la frustration et la confusion totale en ce qui concerne votre salut. Dieu veut que vous sachiez que vous êtes sauvés. Il ne veut pas que vous soyez dans la crainte, dans le tourment, ou dans le doute. Il désire que vous ayez l'assurance de votre salut. Si vous n'avez encore jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, je vous encourage à prendre cette décision maintenant en faisant la prière suivante que nous allons, si vous le voulez bien, faire maintenant, ensemble. Prions. Ô Dieu, je sais que sans Jésus-Christ, je suis perdu. Je sais que sans Jésus-Christ, je mourrai et j'irai même en enfer. Mais Seigneur, je ne veux pas être perdu. Je veux être sauvé. Je me détourne du diable et de mon ancienne façon de vivre. Je ne suivrai plus cette route ancienne. Je me tourne maintenant vers toi, Jésus-Christ, et je te demande d'entrer dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Ô Dieu, tu es plus que mon Dieu maintenant. Tu es mon Père céleste et je suis ton enfant. Je fais partie maintenant de la famille de Dieu. Merci Jésus-Christ de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez reçu Jésus-Christ, chers amis, dans votre cœur, faites à haute voix et hardiment cette confession de foi. Dites, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur et je ne suis pas sauvé parce que j'en ai le sentiment, mais parce que Dieu l'a dit. Je ne vivrai pas dans la crainte d'être perdu parce que je connais la vérité et la vérité m'a affranchi. Je remercie Dieu aujourd'hui pour l'assurance de mon salut. Amen. Amen. Et chers amis, je vais vous mettre quelques chants d'autrefois. Il y a 50 ans environ, quand j'avais fondé une mission sur cassette, évidemment, je ne garantis pas la qualité, mais les paroles peuvent tout de même atteindre le cœur. Alors je vous laisse avec un peu de chant. Malheureusement, je ne garantis pas la qualité, je vous l'ai dit.
God be with you till we meet again. By his counsel's guide uphold you. With his sheep securely fold you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. 'Neath his wings protecting hide still provide you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus. Till we meet, till we meet, God be with you till we meet again.
Heaven came down and glory.
What a wonderful, wonderful day, day I will never forget. After I'd wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend, he met the need of my heart. Shadows dispelling with joy, I am telling, he made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul.
Glory filled my soul.
When at the cross the Savior made me whole.
The Savior made me whole.
My my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul.
Heaven came down and glory filled my soul.
Now I've a hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure, there in those mansions sublime. And it's because of that wonderful day when at the cross I believed. Riches eternal and blessings supernal from his precious hand I received.
Heaven came down and glory filled my soul. Glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. The Savior made me whole.
My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul.